Tout d'abord, je voulais remercier pour cette invitation et tout particulièrement mon cher Steph, avec qui j'ai le plaisir de collaborer depuis le premier flash test en France, qui me donne des conseils avisés pour ma pratique de tous les jours et pour mes prétendues recherches. Voilà. Et donc, pour reprendre un tout petit peu, nous avons depuis, je crois que 2011, constitué un groupe de réflexion pour la prise en charge des personnes transgenres au sein de deux Corivis d'Île-de-France, Corivis Île-de-France Nord et Corivis Île-de-France Ouest. Tout simplement parce qu'Île-de-France Nord, c'est l'hôpital Bichat qui a une tradition de prise en charge de cette population depuis les années 90 et la proximité de des domiciles de domiciliation de ces personnes et l'hôpital Ambroise Paré, la proximité du bois de Boulogne, qui c'est un lieu connu d'exercice du sexe tarifé, notamment en rapport avec la population transgenre ou pas. Alors, lors d'une des réunions, je crois que j'aurais du mal parce que ça ne s'affiche pas du tout.
Écoute. Ouais. C'est étrange cette histoire.
Ouais, voilà, ça va.
Il suffit
que je fasse ça. D'accord. Donc, en février 2013, lors d'une réunion de ce groupe, Camille Cabral, la directrice de l'association transgenre militante milieu VIH qui existe depuis 1993, donc une des plus anciennes, la plus ancienne, avait assisté à une présentation d'un professeur des États-Unis, et elle avait trouvé ça hyper intéressant, la PrEP, éventuellement pour les travailleurs du sexe, et a demandé qu'on réfléchisse à cela. Donc, bien entendu, ça fait son chemin. Et en janvier 2014, on a fait une autre réunion, après d'autres, pour faire la logistique d'organiser cette soirée débat. Et lors de cette réunion, je me suis dit que l'idéal serait d'essayer de faire une consultation, même que ce soit pour une enquête flash, vous allez voir qu'elle était qui est très bref et qui est en région réalisée, qui est en région parisienne, auprès des personnes concernées par le travail du sexe, parce qu'après tout, savoir surtout ce qui est leur connaissance et comment ils percevaient ça. Donc, j'ai un peu fait un tour rapide de la bibliographie. Je me suis permise de sélectionner qui est trois publications où on pouvait découper la présence dans des certains essais qui avaient un rapport avec les filatives ou le ressenti qu'on a des personnes qu'on suit dans des services d'infectieux à Paris ou qui sont en rapport avec, par exemple, le transgendrisme. Bon, la Talonne du Nord, donc, c'était une étude qui est très étonnante parce que c'est vrai que la PrEP est connue à 60%, par 66% des personnes, comme j'ai pu discuter avec Gabriel hier. C'est vrai que les premières études des PrEP datent de 2004 en Thaïlande, donc ça peut être lié à ça. Et aussi parce que les indices socio-économiques de ces groupes-là, somme toute de 138 personnes, étaient déjà assez favorisés. Et donc, l'acceptabilité et la connaissance étaient carrément de 66%. Et pour le focus des personnes HSH, l'acceptabilité était en rapport avec un antécédent récent de IST, réalisation du dépistage VIH au préalable, les rapports sexuels planifiés et peu fréquents. J'ai oublié de dire que un des critères pour l'application de ces questionnaires autologues que se faisait par ordinateur dans un lieu de recrutement, c'était avoir des rapports anaux réceptifs. D'accord ? Donc, et pour les trans, c'est le fait de connaître et d'avoir une assurance privée. Ce que j'imagine dans ce pays, ça ne doit pas concerner beaucoup de personnes. Une autre étude faite dans trois régions métropolitaines de Californie, donc avec des petits groupes plutôt de Cali, 12 personnes dans chaque groupe, avec une représentativité ethnographique assez importante, parce que selon la métropole ciblée, il y avait une représentation importante de Afro-Américains, d'autres de Latino-Américains et d'autres carrément de personnes caucasiennes. D'accord ? Et ce qui ressortait, c'est qu'il n'y avait même pas 30% de connaissance de ces dispositifs et qu'ils étaient intéressés, oui, si ils avaient une prise en charge insérée et avec des discours adaptés dans des lieux qu'ils peuvent fréquenter par rapport à tout ce qui peut vouloir dire aux États-Unis d'avoir ou pas un accès aux soins par des plans de santé ou comme on appelle d'assurance. À Pérou, Lima, ça serait pas mal. On écoute beaucoup de nos félatives personnes originaires de ce pays. C'était chapeauté par un groupe, je crois, du CDC. Et ils ont fait 7 focus group avec un effectif de 45 personnes et ont présenté des femmes travailleuses du sexe, des HSH. Qu'ils n'ont pas cité travail sexuel et des trans non plus, bon, vu la représentativité. Et en fait, ce qui était intéressant, c'est qu'ils ont proposé 8 situations différentes, donc en faisant varier le temps de prise, le coût et l'efficacité. On pouvait aller de le prendre tous les jours, pendant un an, pendant 10 ans, avec une efficacité qui variait de 30 à 75%. Et forcément que l'acceptabilité était plutôt en rapport avec une efficacité supérieure à 75% et une contrainte de prise qui ne dépassait pas un an et à la demande. Donc, ce qui ressortait, c'était le prix, l'efficacité, les effets indésirables. Après, ils mettaient des quotas. Et les ressentis, c'était qu'ils augmentent les stigmatisations pour qu'ils soient plus repérés comme des publics à grande désinhibition de comportement sexuel. Et ce qui était intéressant, c'est que les ASHR estimaient que ça devait coûter quelque chose et que les personnes trans, même si la représentativité n'est pas immense, estimaient que cela devait être gratuit. Et les personnes trans ont fait appel qu'elle sorte un peu de l'invisibilité. Et l'intérêt, c'était que les personnes qui les prescrivent soient vraiment connaisseuses de toute particularité de chaque population. Voilà. Donc, pour rentrer dans notre petite enquête, dans cette réunion, il y avait Corinne Letous de Sidassin qui avait suggéré dans nos échanges de mails qu'on pose des questions ouvertes, simples et consensuelles, pour qu'on puisse songer après une explication sommaire que cela se passe de façon autologue, hein, et en discuter avec ma chef, parce qu'il faut toujours discuter avec les chefs, surtout quand on n'a pas de financement pour l'élaboration de ces questions. J'ai eu aussi l'aide de Jo Bernardeau, qui est quelqu'un qui est très engagé dans le milieu associatif trans et VIH, qui est membre de EATG, qui est la représentante trans de EATG, Malika Maouche et Françoise Gilles, qui sont des chercheuses en sciences sociales, sociologues toutes les deux, je crois que Malika est plutôt anthropologue, qui font Malika de droit et prostitution, et Françoise, chercheuse indépendante, qui ont beaucoup de connaissances, ont fait beaucoup de travaux de recherche auprès des personnes travailleuses du sexe et personnes transgenres, en particulier Françoise Gilles, et Miguel-Ange Garzeau, mon éternel tandem, même s'il a quitté le milieu associatif. C'est quelqu'un qui a créé pratiquement tout ce qui est du versant de prévention latino-américaine en Île-de-France et qui a participé d'élaboration du plan national pour les personnes concernées par le travail sexuel et pour le groupe trans avec moi. Donc, il aurait fallu donc faire un questionnaire enquêteur parce que même les personnes qui pouvaient divulguer ces questionnaires n'étaient pas elles-mêmes très connaisseuses du dispositif. Et c'est pour ça que je me suis permise de me baser sur ce site des États-Unis, qui d'ailleurs sert aussi pour le site Hypergay, parce qu'il est très complet. Et finalement, je vais demander à Charlotte de vous passer les questions, parce que mettre ça en diapositive, ça aurait été un peu trop long. Il fallait donc cibler des publics très divers, et concernés par le travail sexuel, et donc on avait besoin de traduction. C'était carrément les copains disponibles pour se faire. On a dû faire ça en une semaine, en week-end, chacun ami du sien. Donc, dès la maman du médecin qui travaillait à Bichat auprès des personnes transgenres et auprès des personnes latino-américaines, tout ce qu'a tué qui est agent de prévention à Arcat, qui est une infirmière d'origine taïwanaise, et moi-même pour le portugais, voilà. Le bulgare, c'était très sympa, mais on n'a pas trouvé de personnes parlant bulgare pour l'appliquer. Mais bon, hein, il est là. Bon, pour les diffusions et les retours, on a envoyé ça à des associations diverses. Certaines travaillent auprès de personnes, dont la majorité travaille aussi et travaille auprès des personnes travailleuses du sexe. Acceptez, je suppose que vous connaissez tous, c'est une association en plein essor de personnes transgenres. Nous avons eu 38 retours et le commentaire très pertinent de Giovanna Rincon lors de la réunion, c'est-à-dire, ah oui, rien que d'avoir appliqué dans un temps très court ces questionnaires, on s'était rendu compte que les personnes transgenres séronégatives, elles existent et qu'il donc faut savoir les apprivoiser et savoir comment faire pour qu'elles le demeurent et tout en programme. Donc pour Arcat, c'est les deux versants, le versant latino-américain qui est grâce à notre Tamara qui a quitté hélas le Passare Latino, qui est un local pour prévention auprès des personnes d'origine latino-américaine, particulièrement transgenres, travailleuses du sexe, mais pas que. On a eu 12 retours, 8 retours en mandarin. C'était très drôle, là, c'était carrément une action flash, parce que c'était un jour de rendu des résultats pour les personnes qu'on a fait aller hors les murs avec le bus. Donc, elles sont venues, il y avait tué avec les questionnaires, donc cette articulation de l'associative avec les personnes. Louis Strass, j'ai eu 10 retours, on s'est envoyé par mail et Mylène a fait une maraude un soir, il m'a envoyé 9 questionnaires. L'OPAST, 14 retours, c'est une association qui a une convention avec l'hôpital où je travaille depuis 2004. Jo et Andrea Pignorams, qui sont deux personnes trans qui sont très, très engagées et au milieu associatif en France et au Portugal, et après les actions médicales, tout en précisant que presque la moitié des questionnaires m'ont été envoyés le soir, la veille de la présentation qui a eu lieu le 21 mai 2014. Donc le lendemain, j'avais à présenter presque des données que je ne connaissais pas tout. Voilà. Donc au niveau communication, on a envoyé les questionnaires par la poste. La majorité, c'était les gens de Corévi qui faisaient les envois et qui centralisaient à la réception. Après, notre technicienne d'études cliniques a fait le recueil et le traitement, on a fait ça ensemble. Qu'est-ce que cela a donné ? En moins d'un mois, nous avons eu donc 6 retours de 110 questionnaires. Les langues sont représentées et le portugais est majoritaire et pour cause. Voilà, l'espagnol. Ah, vous ne voyez pas trop le pourcentage. Donc, 43 d'espagnol, 33 français, 10% portugais, 7% mandarin et 7% anglais. Je suis désolée, on ne voit pas. Hein. Non, là, c'est le 47 chiffre absolu. Après, c'est le pourcentage. Je suis désolée, mais on ne le voit pas. Oui, on ne le voit pas. C'est vrai que ça rend mal. C'est... Donc, au niveau genre, la population transgenre sous-représentée. En rapport avec les garçons, il y a eu une position du Strass qui nous a dit qu'ils auraient préféré, surtout Thierry, avoir un financement pour se faire. Et nous, on n'en avait rien, mis à part la chef de service qui a mis les timbres dans les enveloppes envoyées. Alors du coup, on n'a pas pu. Et c'est pas représenté. Voilà. Par rapport où le travail sexuel est exercé, on voit une précarité importante parce que 45% de ces personnes travaillent dehors, donc dans la rue. L'âge médian de 38 ans, c'est un peu ce qu'on constate dans nos files actives, donc avec des IQR 29, 45 dans les files actives qu'on suit de Bichat et d'Ambroise Paré. Pour les pays d'origine, 53% de la Latinamérique, encore une fois, c'est où nous avons nos actions et les collaborations associatives. Mais un petit clin d'œil pour les personnes originaires de DOM. C'est vrai qu'il y a des échanges à distance, mais les échanges locaux et des focus pour ces populations, je sais que Sandrine Fournier s'intéresse pas mal à ça pour les HSH, mais je pense qu'il fallait qu'on s'intéresse à ça aussi pour les personnes transgenres. Je sais que c'est généralement personnes transgenres parce que c'est des retours du past, d'accord, mais bon, sens large. Donc, les questions étaient trois questions simples, une avec des réponses oui et non pour savoir ce qu'on connaissait. Forcément, nous avons fait le choix de citer les deux dispositifs le plus connus de propositions de PrEP qui ne sont pas encore dans des études de faisabilité. Donc, les formules galéniques des études qui ont déjà avaient été faites pour Caprisa et d'autres, et on n'avait pas cité KEDO-TDF parce que c'est KEDO-TENOFOVIR parce que c'était trop ancien. Et donc, c'est presque un miroir de ce qu'on a parlé tout à l'heure pour la Thaïlande, parce qu'il y a 68% des personnes qui n'avaient jamais entendu de parler. D'accord. Après, on posait la question de qu'est-ce que la personne aimerait savoir par rapport à ce type de réduction de risque, pour être plus précis. Et on se rend compte que toutes les questions ont eu des réponses pour au moins 25% des personnes et que les préoccupations avec la santé en soi ressortent de façon très importante. La première question, ce qui me semble un peu logique pour les personnes concernées par le travail sexuel, c'est se demander s'ils protègent aussi à d'autres infections sexuellement transmissibles, 55%. Se demander, et ça, cette question, elle a déjà ressorti pas mal lors de la journée, où trouver des médecins connaisseurs et prescripteurs de la PrEP. Quels sont les effets indésirables? Combien il faut prendre? Donc tout ça, ça reflète vraiment des inquiétudes par rapport à la santé en elle-même ou alors à la prise en charge. Et après, comment on peut se passer de préservatifs pour que le prix ressorte, concerne une enquête 40%, mais ce n'est pas l'inquiétude première. Peut-être parce qu'en France, il y a beaucoup cette notion dans traitement avec la sécurité sociale, il y a un certain taux de remboursement à qui elle se destine, 35%, et l'autorisation de mise au marché. Une chose qui m'a interloquée pas mal et qui montre que finalement cette population, elle doit connaître, doit avoir beaucoup de messages du VIH, c'est que 41% d'entre eux s'est posé la question à propos de la résistance au VIH. Et ça, c'est quand même au niveau, pour qu'on va penser des messages, de renseignements retenus, c'est quand même assez important, je pense. Les difficultés par rapport au mode de vie, c'est plutôt l'impact sur le quotidien avec les effets indésirables. Encore une fois, l'inquiétude par rapport aux autres IST. Et intéressant, c'est que une des questions que j'avais ajoutées après avoir discuté avec Malika, je m'attendais à plus de réponses, quoique 28%, c'est quand même pas mal, c'est la négociation du préservatif. Donc ça veut dire que cela est très ancré, j'ose imaginer, qui est pas mal ancré, ou alors c'est quelque peu banalisé compte tenu de l'esquizophrénie que tous les pays peuvent vivre entre la différence du ministère de l'Intérieur et celle de la Santé pour ce qui est de la prévention. Parce que quand on fait, qu'on en rend encore plus susceptibles et vulnérables des populations qui font ce qu'elles peuvent pour survivre, c'est sûr et certain que la négociation de préservatif va passer un peu à l'as si on a un frigo à remplir ou si on a des traites à payer. Donc on peut interpréter ça de deux façons. De toute façon, comme je vous ai dit, c'était très rapide comme enquête. Et bon, même par les différentes populations, différents publics qui ont été finalement touchés, comme c'est des N trop petits, je n'ai pas eu l'opportunité encore de discuter avec un statisticien pour pour traiter les différentes populations publiques en séparé. Voilà. Donc, pour la conclusion de ce qu'on a vu, ce que je vous ai déjà un peu parlé, que la représentativité importante de trans, différemment de ce qu'on peut voir dans d'autres études de faisabilité, c'est du fait qu'on travaille beaucoup auprès d'elles, que les femmes, par rapport aux femmes chinoises, hier, je discutais, travailleuse de sexe chinoise, je discutais avec Morgan, le travail de médecin du monde est remarquable. Là, il y a une nouvelle vague qui arrive, qui n'est plus que cantonnée à Belleville, qui va un peu vers Clichy, Saint-Ouen et tout ça. Et il y a déjà des échanges, tout au moins pour distribution des préservatifs et des messages de prévention avec Thierry. Ça a permis le positionnement du Stra sous la PrEP, mais ça, Morgan va parler plus longuement. Il pensait qu'il faut toujours, plus que ça, que les personnes concernées par leur santé puissent être acteurs et nous dire ce qui les inquiète eux-mêmes avant qu'on puisse ne faire que des constats par rapport à des paramètres certes, qui nous aident beaucoup, mais dont l'épidémiologique, dont l'habitude de traiter. Donc, depuis cela, qu'est-ce qu'il y a eu? Le numéro thématique du Lancet pour VIH travailleurs de sexe. J'ai pris des messages très courts, comme vous allez vous rendre compte, c'est surtout pour les femmes, c'est des études, des cohortes plutôt en Afrique. Et c'est sûr et certain que si on regarde les indices de l'OMS par rapport au taux de prévalence et incidence rien qu'en Afrique du Sud, après le TASP, ça a changé énormément. Donc, rien que pour donner un exemple, la transmission du VIH liée aux personnes travailleuses du sexe a baissé de 11 à 6%. Donc, juste dire que, voilà, quand on pense en élargir tous les dispositifs, c'est la marche. Je n'ai pas cité l'échange de seringues et quid des salles d'injection, parce que là, on parle de VIH, mais l'hépatite C, elle est là. Il ne sait pas que l'échange de seringues, c'est aussi le crack, c'est aussi la paille, et donc du coup bon, d'autres réflexions et continuer des travaux de réduction de risque. Et il y a clair, même s'il y a d'autres priorités, qui si on souhaite faire des études, il faut stratifier par public concerné par le travail du sexe et surtout mettre en premier plan ce qui ça veut dire vulnérabilité pour ces personnes. Juste un petit clin d'œil, parce qu'à moi, j'ai toujours trouvé ça drôle. La première présentation qu'on a faite sur les transgenres, c'était le lendemain de la publication IPREX au New England, en novembre 2010, que Gilles vient. C'est super, on a un essai qui inclut les transgenres. 1%. 1% des personnes transgenres. 1,2, va, dans IPREX. Et si on va regarder toutes les études, 0,2%. Donc, ceci explique cela dans l'invisibilité. C'est très bien de dire qu'on va les prendre en charge. Il faut les écouter, il faut tenir compte de leur, de la pléiade, ce que ça veut dire la transidentité, et peut-être faire vraiment avec, mais d'une façon de base. Et là, une autre étude concernant une partie des travailleurs du sexe, donc des HSH et HSH travailleurs du sexe dans des situations précaires aux États-Unis. Ils suggèrent qu'ils connaissaient peu. On a donné des renseignements. Et ils disent qu'ils peuvent accepter cela à partir du moment que cela soit dispensé dans des structures qu'ils peuvent fréquenter. à savoir des structures que je ne sais pas si je peux oser appeler ça Bassoï, parce que j'ai une ignorance spécifique du système de santé et prise en charge aux États-Unis, mais il cite des dortoirs d'urgence, il cite des cliniques itinérantes, et il cite aussi des structures qui se ressemblent au Caroud, et comme c'était plutôt du Cali, il y avait des entretiens, et il disait qu'il préférait, par exemple, que leur médecin, addictologue ou psychiatre puisse avoir des renseignements suffisants pour pouvoir prescrire et cerner le besoin qu'ils aient ça. D'accord? La majorité d'entre eux étaient dépistés pour le VIH assez fréquemment, tandis que les travailleurs du sexe l'étaient nettement moins pour les infections sexuellement transmissibles, parce qu'il y a toujours pour eux la notion de maladie, à savoir qu'ils vont s'inquiéter lorsqu'ils ont des symptômes. Donc si dans des situations précaires, dans un pays comme les États-Unis, on a ça, j'imagine qu'on doit se faire des questionnements par rapport aux situations de vulnérabilité qu'on a en Europe. Donc là, c'est juste un clin d'œil encore à propos de tout ce qu'on fait comme prévention et réduction de risque. Ce dépliant, il est assez ancien, mais j'aime beaucoup sa conception où on pense un peu à tout. À l'époque, il n'y avait pas encore la PrEP, mais tout est cité dedans en espagnol. Encore mon cher et tendre Miguel-Ange Garzo qui a fait ça. Je n'ai pas mis les préservatifs dedans, mais j'ai laissé pas mal de dépliants comme ça. Donc, en prenant en compte de l'environnement, l'utilisation de substances psychoactives, la sécurité lors de l'exercice du travail sexuel, des petits clins d'œil de comment faire attention et des messages de santé, y compris sur la PEP, sur le TPE. Voilà. Et bon, ça c'est encore dans le versant espagnol. C'était quelqu'un qui a vécu, une activiste américaine qui vivait dans le Rampla dans ces années, qui on a perdu l'année d'après de cette fresque qui, pour moi, c'était 89. J'ai commencé à... j'étais en fin de mon internat et je crois toujours à ça et je crois qu'on s'approche de plus en plus parce qu'on a de plus en plus des outils, même si on a de plus en plus de questions à se poser. Je vous remercie.